voudrais vous raconter l'histoire de l'identité, ou plutôt l'histoire d'un homme. C'est un homme qui n'aime pas trop les étiquettes qu'on lui colle sur le front. Il n'aime pas trop les assignations à résidence identitaire, parce que ce qu'il aime, lui, c'est le mouvement. C'est le voyage, c'est la fluidité d'une eau qui coule, c'est se mettre en route et inscrire ses pas dans ceux de Basho, poète japonais capable de traverser son pays pour un coucher de soleil et quelques haïkus. Même quand il doit fuir sa terre natale et trouver refuge sur un autre continent, il ne dit pas exil, mais voyage. Je ne suis pas exilé, mais je suis voyageur. D'ailleurs, peut-être même qu'il n'est pas voyageur, c'est peut-être encore trop être voyageur. Il voyage avec Henry Miller, il voyage avec Jack Kerouac, il voyage avec Blaise Cendrars, il prend la route avec Basho. Il n'est pas de ceux qui se lamentent, mais de ceux qui inventent. Il n'est pas de ceux qui répètent à l'envi une recette qui marche. Il préfère marcher toujours et prendre le risque de faire ce qu'il ne sait pas faire. C'est sa manière de prendre la vie au sérieux, mais sans jamais tomber dans l'esprit de sérieux, dans une identité, dans une terre ferme et étriquée. Il prend aussi beaucoup de bains. La plupart du temps, dans son bain, il lit. Sauf quand il est dérangé par une jolie fille qui lui intime de poser son livre et de fermer les yeux. Cet homme sait que la joie est liquide. Liquide comme de l'eau, comme du désir ou comme du vin. Qu'il soit d'ailleurs bon ou mauvais. Comment pourrait-il, cet homme, ressembler à ces imbéciles chantés par Brassens? Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Lui, il est né quelque part, mais c'est ailleurs qu'il est devenu écrivain. Ainsi vogue-t-il d'une appartenance à une autre. Ainsi chérit-il le multiple en lui quand d'autres restent scotchés à leur unique clocher. Mais à force de voguer, est-ce qu'il flotte? Qui est-il vraiment? Lui qui est de tous les pays en même temps que de celui des livres. Qui est-il vraiment? Lui qui de voyage en voyage ne fait que louer l'immobilité. Que reste-t-il du moi quand ainsi il s'ouvre à sa pleine multiplicité? Pour en parler ce matin, de ce vertige de l'identité, j'ai la joie de recevoir Dany Laferrière, écrivain haïtien, mais aussi canadien, peut-être même un peu japonais, peut-être même un peu américain. Dany Laferrière, donc, de l'Académie française, écrivain, mais également dessinateur. Dany Laferrière, qui nous a rejoint sous le soleil de Platon, dans la caverne de France Inter, pour nous aider à réfléchir à cette épineuse question, l'identité multiple est-elle encore une identité ?
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Dany Laferrière.
Bonjour, quelle entrée.
Écoutez, je suis très ravi de faire cette entrée avec vous parce que c'est ma première émission de tout l'été, sous le soleil de Platon. Et pour fêter votre présence, on va commencer par entrer directement dans le vif du sujet parce que c'est quand même une émission... Mon but cet été, c'est de faire des vraies rencontres à la fois avec les invités, mais aussi avec la philosophie, et à travers une question. La question que je voudrais qu'on pose avec vous, c'est celle de l'identité. Alors, je vous ai présenté comme l'homme d'une identité multiple. Je rappelle que vous êtes haïtien, né en Haïti, vous avez grandi en Haïti, puis vous avez dû fuir ce régime dictatorial, après d'ailleurs l'assassinat d'un de vos amis journalistes. Vous avez été très bien, on va dire, accueilli, peut-être, au Québec, au Canada. Et puis, vous avez écrit « Je suis un écrivain japonais », vous êtes maintenant à l'Académie française. D'où ma question, et je vais enfin arrêter de parler et vous écouter. Quand on parle d'identité multiple, est-ce que on pourrait dire que c'est quoi? Une mosaïque? Un kaléidoscope? Vous diriez quoi?
Oh non, pas du tout. C'est très simple. Je suis celui que je suis là où je suis. Je suis là devant vous en ce moment. C'est quand on dit que la Terre tourne autour du Soleil tout en tournant sur elle-même, c'est un exemple très simple. Pourtant, on sent pas de vertige et malgré tout. Non, les gens se posent toujours cette question un peu très difficile. Qui suis-je? Moi, je me pose une question à laquelle j'ai une réponse. Où suis-je? Je suis en ce moment sous le soleil de Platon.
Alors ça, c'est d'abord un très bel endroit. Mais juste quand même, si je vous écoute, si vous êtes toujours là où vous êtes, si le lieu finalement parle de vous davantage qu'une identité qui serait propre à l'intérieur, il y a quand même une question, c'est est-ce qu'il y a une permanence? Est-ce que finalement vous êtes le même quand vous êtes de retour en Haïti, quand vous êtes à Montréal, quand vous êtes à Miami ou quand vous êtes à Paris? Est-ce qu'il y a quelque chose qui demeure quand tout le reste bouge?
Le problème, c'est que ce n'est pas mon problème. C'est-à-dire, je ne cherche pas à essayer de m'identifier. Je n'ai pas un GPS métaphysique là, ouais, qui me suit et qui essaie de m'identifier, de me dire sous quelle température identitaire je suis. Je me laisse aller, tout simplement. Et peut-être que ça remonte très loin dans mon enfance, quand j'étais avec ma grand-mère et qu'on regardait le soir et le ciel avec toutes ces constellations, et on a toujours rêvé, elle et moi, de vivre dans ces constellations. Donc c'est là que j'ai eu l'idée que la Terre était déjà trop petite pour en plus la morceler, la diviser, mettre des frontières. C'est que je peux être à Montréal et me croire à Port-au-Prince, et je peux être à Port-au-Prince et m'imaginer immédiatement sentir les odeurs de Paris comme du Japon. C'est pas seulement et dans le souvenir que se trouve ma personnalité intrinsèque, c'est que j'ai la possibilité aussi d'agir sur ces souvenirs-là, de les mélanger. Comme dans un rêve, des fois je rêve, je suis à vélo à Petit Gouave, là où j'ai passé mon enfance, et brusquement au tournant de la rue, je vois que c'est Paris, et je tourne encore comme tout quand on fait des rêves. Et tout est mélangé.
Mais si je vous prends au mot, et si on pense par exemple à ce que dit la psychanalyse de ce monde des rêves, mais j'insiste un peu parce que voilà, c'est mon métier, on s'aperçoit qu'il y a quand même un axe inconscient, notamment dans tous ces rêves, dans toutes ces images qui sont déplacées comme ça, qui sont condensées, il y a quand même souvent quelque chose qui revient. Par exemple, Jacques Lacan appelle ça le désir, c'est-à-dire qu'au milieu de tout cet imaginaire, de tout ce flottement, de tous ces rêves, il y aurait quelque chose comme ça qui insiste. Et c'est vrai que quand on est écrivain comme vous, on pourrait penser que malgré la diversité des livres que vous faites, d'ailleurs vous êtes aussi passé, on va en parler, au roman dessiné, que peut-être il y aurait quand même un axe. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que cet axe vous intéresse pas ?
Ah non, mais il y en a plein, des choses complètement fixes et qui reviennent. Au contraire, je suis un écrivain du ressassement. Je ne cesse de ressasser les mêmes choses. Je crois que pour moi, je suis le genre d'écrivain à avoir 4 ou 5 idées, 3 ou 4 sensations qui continuent de cheminer. L'enfance, par exemple, qui revient sans cesse avec une tasse de café et ma grand-mère. Et à Petit Gouave, Port-au-Prince, avec son fourmillement, cette surpopulation, ses odeurs, sa gasoline et sa vitesse, et aussi la dictature, bien sûr, et puis ma mère et mes tantes, et toute ce cercle de feu qui m'entoure et me protège, et Montréal, et qui m'a donné cette liberté pour écrire, liberté pour vivre dans une baignoire et lire. Donc c'est des corps que je transporte, si on peut dire, et c'est toujours très physique. Et il y a beaucoup de déplacements, mais il y a un nombre très restreint de thèmes.
Vous pensez que, si je reprends l'affirmation de Sartre qui dit « un homme n'est que la somme de ses actes », que vous êtes davantage la somme des livres que vous avez écrits ou la somme des livres que vous avez lus ?
J'avais écrit dans un des livres qu'au début je croyais que j'écrivais mes livres, que mes livres venaient de moi pour enfin comprendre que je viens de mes livres. Et je crois que c'est à peu près cela que Sartre peut-être voulait dire, c'est-à-dire à force de faire les choses, les mêmes choses, on finit par avoir un impact sur vous. Et j'ai écrit 36 livres, il faut comprendre que je viens d'un pays où l'espérance de vie est très faible, donc je devrais déjà être mort. Beaucoup d'hommes de ma famille sont morts à cet âge-là. Et donc, il faut diviser par 2 le temps qui m'est imparti. Donc, avoir écrit 36 livres, ça veut dire que je me suis assis longtemps pour les faire. Et c'est normal que cela finisse par avoir un impact sur ma sensibilité.
Alors, je vais d'ailleurs lire un extrait d'un des livres de vous que personnellement je préfère. Je suis un écrivain japonais. On va retrouver à la fois ce que vous venez de dire, cette enfance, et puis aussi ce rapport au livre. Je regarde du coin de l'œil les progrès du rayon de soleil sur le plancher. Le téléphone, pas loin. J'aime lire dans le bain. D'où vient que je préfère lire à écrire? Je me vois remonter la rue ensoleillée de mon enfance en tenant la main de ma grand-mère. Un dimanche en province. Un homme tranquillement assis sur sa galerie, devant une large table couverte de livres, tous ouverts. Il était penché vers eux, comme devant un buffet riche et varié. Ce gourmand passait d'un livre à un autre avec la même excitation. Rien ne semblait exister autour de lui, à part ses mets appétissants. Il semblait si loin de nous, si hors de notre portée. Nous pouvions le voir, mais il était visiblement ailleurs. Ma grand-mère m'a alors glissé à l'oreille. « C'est un lecteur !» Et j'ai tout de suite pensé « C'est ce que je ferai plus tard !» Je serai un lecteur. Sur mes rares photos d'adolescence, j'ai toujours un livre en main, même celle où je suis en train de bavarder avec ma camarade de classe. Ce que je crois sur mon chemin aujourd'hui me le rappelle. Il n'y avait, semble-t-il, pas moyen de communiquer avec moi. J'étais toujours plongé dans un livre. J'ai une photo où je suis en train de lire couché sur le plancher avec ma mère à l'arrière, repassant mon uniforme d'école. Ça devait être un dimanche après-midi. Ma mère me poussait sûrement à sortir, à aller sur la place ou au cinéma avec les copains, mais je ne voulais que lire. Ni le soleil, ni la lune, ni les filles ne m'intéressaient alors. Seul le voyage que permet la lecture. Je n'étais jamais rassasié. Je rêvais qu'un jour, j'entrerais dans un livre pour ne plus jamais revenir. C'est ce qui m'est enfin arrivé avec Bachot. Donc c'était un extrait de votre roman, Je suis un écrivain japonais. Racontez-nous cette rencontre avec Bachot, ce sage japonais, ce moine qui se promène à pied.
C'est arrivé par hasard chez une amie à Montréal. J'étais allé chez elle un dimanche, décidément, et j'avais vu ce livre. C'est un livre où un moine japonais, poète, et racontait son voyage vers le nord du Japon. C'est une route difficile, d'ailleurs, sur la route étroite des districts du nord. Il s'en allait comme ça avec son disciple Sora, et pour aller voir un coucher de soleil. J'étais très intrigué par cette idée, parce que le coucher de soleil, ça, c'est partout. Et comment peut-on aller voir un coucher de soleil? Et puis aussi, et cette idée technique d'écrire, d'être poète, dans une prose. C'est-à-dire, il racontait son voyage et de temps en temps, il laissait glaner quelques haïkus sur la porte d'un temple, et sur chez un ami croisé sur la route. Et ce plaisir qu'il avait de vivre de surprise en surprise comme ça, que le voyage soit fait de petites choses très minuscules, comme un ver qui lui apparaît au milieu d'une vallée et d'arbres verts en plus, un ver singulier. L'idée aussi qu'il était d'être très excité à l'idée de traverser une frontière, c'est-à-dire de quitter le Tokyo pour passer le premier pont, la première porte. Enfin, tout cela m'avait intéressé, je me suis retrouvé dans cela.
Alors j'ai entre les mains un de vos livres les plus récents, qui est un roman dessiné sur la route avec Bachot. Il faut expliquer quand même pour nos auditeurs, non seulement il y a des dessins de vous, mais les quelques textes sont écrits de votre main. C'est pas tapé à la machine, c'est écrit de la main. Et il y a notamment ce haïku de Bachot. J'aimerais que vous nous disiez pourquoi vous trouvez ça si beau, et peut-être pourquoi aussi vous allez vers le haïku, peut-être parce que on parlera tout à l'heure de votre dernier livre qui est tout petit. Et vous dites c'est pas une nouvelle, c'est un petit roman, c'est un roman bonsaï. Donc c'est un peu la même idée de s'alléger au fond, d'aller vers quoi, la trace ou l'esquisse ou le reste. On va en parler après. Mais prenons un exemple, un haïku de Bachot, herbe folle de l'été. Où frémit encore le rêve des guerriers. Expliquez-nous un petit peu.
Oh, vous savez, j'étais au début de l'adolescence, et j'avais lu un livre où il y avait un paysan qui était couché sous un arbre et en France et qui regardait passer l'armée de Napoléon. Et j'ai imaginé que au retour, il verra l'armée. Et qu'est-ce qui restera? Ce serait plutôt l'herbe qui pousse, qui verdoie, qui repousse. Et c'est ça, cette permanence dont vous parlez, c'est-à-dire, et ça m'avait intéressé. Et je crois que c'est un peu de cela que Bachot parle. Il parle de ce qui repousse, de ce qui ne s'intéresse pas à ce qui se passe à la surface. L'herbe est en dessous de la terre, il va pousser. Je l'ai vu d'ailleurs faire la même chose à Montréal où je vis quand on voit le mois de février, la glace qui recouvre et la terre, on imagine difficilement, et dès le début de juin, et l'herbe va réapparaître, la même herbe sous la glace qui est restée 6 mois comme ça, et sous la terre. Donc ça m'impressionne, cette façon de continuer ignorant de tout, et cette façon d'être insensible à l'agitation des hommes, leurs ambitions, leurs passions.
Mais finalement, dans ce
guerrier, par exemple.
Ouais, dans ce que vous dites, je trouve qu'il y a deux idées. Il y a l'idée que finalement, après toute cette agitation, tous ces enjeux, tout cet orgueil, finalement, il restera pas grand chose qu'un peu d'herbe qui repousse. Donc l'idée qu'il reste pas grand chose. Mais il y a aussi une autre idée qui est que la vie reprend.
C'est
toujours.
C'est une idée grandiose, une herbe qui repousse, c'est ça l'affaire. Ouais. Et puis on peut y marcher dessus si on veut, mais elle repoussera. On peut même faire la guerre dessus. Il y a quelque chose qui se travaille en dessous. C'est surtout ça. Ça suppose qu'il y a quelque chose qui se passe en dessous qu'on ne peut pas voir et qui pousse l'herbe à repousser comme ça, qui ne lui signale pas qu'il y a un danger à apparaître sur la surface de la terre, elle risque de se faire couper.
Ça me fait aussi penser à ce qu'on voit parfois dans le monde urbain, il y a des dalles de béton, des pavés, et on voit parfois, on se demande comment elle a fait une petite pousse d'air comme ça qui a réussi à percer, à se faire sa place pour nous rappeler que autre chose se joue que ce que nous voyons nous qui nous agitons tant.
Comme un vertige sur la ville, moi, l'homme hibou blanc, imbécile, dans un boubou pas très agile. Plutôt fragile, j'ai comme les doigts dans la prise, te voir danser m'électrise, peut-être même que ça m'érotise, que j'idéalise. Malice au mali d'émerveille, le mali Dieu crée la flamme. Le mali danse dans mon âme, on y soit qui mal y pense, qu'importe la couleur de ta peau, béni soit qui au mal y danse, au son des balles de Bamako.
C'est moi le capitaine. Tu danses pas, sois le croque-mitaine. La voix arrive par la droite. Reste une chance et sois pas maladroite. Fais le décalement, ouais carrément. Vire-le, qu'on le fasse légalement. Si t'y penses, c'est que c'est possible. Aujourd'hui c'est dimanche, demain aussi. Respire sans morosité, douce ou cassini, porosité. Si quelqu'un appelle, dis-lui qu'on se tire un bal réel. Tout bassin fait l'hélicoptère.
Béni soit qui mal y pense, qu'importe la couleur de ta peau. Béni soit qui au mal y danse, au son des balles de Bamako.
C'était Bal de Bamako, M et Oxmo Puccino.
France Inter. Sous le soleil de Platon.
Nous avons toujours cette joie d'être avec Daniel Laferrière, académicien, écrivain haïtien, québécois, japonais, on l'a vu, qui a aussi vécu à Miami. Bref, la personne idéale pour questionner l'identité. Et je demandais à Daniel Laferrière au début, c'est quoi une identité multiple? Est-ce que c'est encore une identité? Parce qu'on entend bien que dans le mot identité, il y a quelque chose d'identique à soi, de fixe, qui s'oppose à cette notion de multiple et de voyage. Et vous me répondiez avec beaucoup de sourire, Daniel Laferrière, moi ça m'intéresse pas votre question. Moi je suis plutôt là où je suis. Et évidemment que je ressasse des choses, mais je ne me définis pas comme ça, je ne m'essentialise pas. Venons-en à votre dernier premier livre que j'ai trouvé très étonnant, L'enfant qui regarde, aux éditions Grasset, qui n'est pas une longue nouvelle, mais qui est un tout petit livre de 50 pages. Vous dites que c'est un roman bonsaï. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça?
Je sais pas, c'est pas une nouvelle, parce que j'ai l'impression que la nouvelle fuse. Elle part d'un point, c'est un sprint, et souvent, et on est pressé d'arriver et à la fin. Alors que ce livre a plusieurs pointes, plusieurs directions. C'est un roman, oui, minuscule, un roman bonsaï, peut-être, pour rester dans la métaphore japonaise.
Mais vous racontez l'histoire d'un professeur très étonnant, énigmatique, un peu hermétique. On a l'impression qu'il s'agit d'une figure d'un professeur que vous avez rencontré et qui peut-être vous a marqué. Qui était ce professeur? Comment il s'appelle d'ailleurs? Parce que là, c'est Monsieur Gérard dans le livre, mais en vrai, c'était qui?
On l'a toujours appelé Monsieur Gérard, mais c'est Gérard Canfort. Il a vraiment illuminé mon adolescence. Il avait une manière particulière d'être. Il a éclairé quelque chose au plafond de mon esprit, une lumière qui était éteinte, c'est-à-dire celle de l'énigme, d'une élégance discrète, de quelque chose qui est très loin du tape à l'œil. Enfin, des choses, quand on vit dans une nature tropicale, j'allais dire, et tout est explosif, et tout est un peu proche du carnaval, et brusquement, on voit quelqu'un qui semble avoir une vie intérieure, une certaine intimité.
Ce qui est très beau dans le portrait que vous en faites, c'est que c'est quelqu'un qui vous donne le goût de l'énigme, mais au sens d'une énigme qui ne peut pas vraiment être résolue. Alors je peux pas spoiler la fin du livre.
On ne peut pas.
Mais c'est très très fort, c'est très étonnant, c'est très étrange, on comprend pas ce qui se passe, il y a beaucoup de questions en suspens, et puis il y a un dénouement dingue. Alors je le qualifie pas exprès, mais est-ce que vous vous souvenez quand même de ce que ça a été que cette rencontre? Qu'est-ce qui fait que cette rencontre finalement n'a pas été qu'un simple croisement, comme il y en a souvent, mais a été une vraie rencontre qui vous a, au fond, déplacé?
D'abord, c'est une assez longue rencontre, puisque j'ai passé un peu de la sixième jusqu'à la philo avec lui.
Ah oui.
Oui, bien sûr, c'est un accompagnement. Et il n'y avait pas entre nous ce jeu de maître et de disciple, parce que je n'ai pas de maître. Je crois peut-être que ça vient du fait que mon père a pris l'exil, et j'avais 4 ans, et je n'ai jamais eu l'idée de chercher de père. Et peut-être parce que j'avais tellement tant de tantes, et ma mère, ouais, ma grand-mère, j'étais tellement entouré, et que je n'avais pas besoin j'avais pas de trou d'affection. Et puis, pour le reste, j'avais tous ces écrivains, tous ces livres que je lisais. Et brusquement apparaissait ce personnage extrêmement romanesque et sans théâtre, et sans déguisement. Il n'avait pas d'affectation, il était là, tout simple, une manière d'être un peu comme point d'interrogation, il se tenait un peu. Et c'était intéressant, on ne savait rien de lui, alors que c'est une ville de commérage.
Ouais. D'ailleurs, il y a beaucoup de rumeurs sur lui. On raconte qu'il aurait cette histoire avec une femme riche, ou alors qu'il fait des choses horribles.
Oui, c'est cela, et comme ça, on ne peut pas essayer d'accepter que quelqu'un soit différent. Et là, brusquement, il faisait une émission de radio à la Radio Haïti, qui était une station importante, et chaque midi, et bien, pendant des années, on n'a jamais su qui faisait cette émission, parce qu'il disait jamais son nom. Et nous, on reconnaît un peu la voix, mais on n'arrivait pas à être sûr que c'était lui. Donc, tout ça, c'est très intéressant dans ce monde où les gens poussent du col, ils aiment bien se faire voir.
Ils aiment bien être quelqu'un. Alors, vous faites revivre l'enfant que vous avez été dans le rapport à ce professeur. Donc, je vous lis. Un enfant qui regarde mûrit plus vite que celui qui n'arrête pas de courir. L'enfant qui regarde est toujours le plus mélancolique. Et puis, un peu plus loin, pour Monsieur Gérard, tout doit passer par le cerveau. Est-ce mon cas? M'a-t-il inoculé le poison de l'intellectuel qui fait qu'on écoute la musique au lieu de la danser, ou qu'on regarde au lieu de prendre part à la fête?
Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et bon, le problème d'abord, c'était un peu plus simple pour moi, parce que je suis peut-être l'une des rares personnes en Haïti qui ne sait pas danser. Alors, donc, ça... Mais ça a créé quelque chose, puisque les jeunes filles voulaient toutes danser avec moi, parce qu'elles savaient pas que...
Là, vous deveniez un peu le monsieur Gérard des jeunes filles, quoi, l'énigme.
Oui, parce que elles se demandaient pourquoi je refuse de vouloir danser avec elles. Donc, j'avais compris le rapport d'attraction et de recul et dans les relations humaines. Ce que monsieur Gérard ne pratique pas, il ne pratique pas, il n'a pas de pause. Je peux pas dire que c'est ce qu'il faisait, ce qu'il était, lui. Il avait concentré en lui comme, je sais pas, un diamant noir. Il avait quelque chose qui attirait absolument et vers lui. Et quand on s'approchait de lui, et les choses... On avait l'impression qu'il était... Il était simple, il était tout à fait normal. Et sauf que il avait... Il n'était pas pris dans le mouvement de l'attraction-répulsion qu'on voulait imposer dans les relations. Et il était là, et puis il était ailleurs, brusquement.
Alors je précise qu'à la fin du livre, cette énigme, elle est résolue, donc ça veut dire qu'on a une explication, et d'ailleurs, c'est ça qui fait que c'est pas une nouvelle, et que c'est bien un roman, même tout petit. Parce que souvent, dans une nouvelle, il y a un moment où ça s'interrompt, et puis la chose, on continue à réfléchir. Là, il y a un dénouement, c'est peut-être ce qui fait que c'est un roman banzai, il y a quelque chose d'un éclairage final de cette énigme, je dis ça pour donner envie.
Une satisfaction, si l'on peut dire, et alors que la nouvelle, oui, laisse un peu suspendu. Mais en même temps, tout ça se passe dans la tête du jeune garçon.
Alors, Daniel Laferrière, il y a un moment dans votre œuvre, il y a quelques années, vous êtes passé au roman dessiné. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous n'êtes pas dessinateur. Vous avez écrit plein de livres, notamment à un moment, vous étiez sur un livre de 600 pages, très classique. Et puis, soudain, vous vous êtes mis à dessiner. Et dans une interview, j'ai découvert quelque chose que j'ai trouvé fascinant. Vous vous avez dit, écoutez, j'en avais marre de savoir faire ce que je savais faire, alors j'ai décidé de faire tout ce que je ne savais pas faire, à savoir dessiner, et puis aussi parler de choses nouvelles, et notamment de Paris.
Et écrire à la main aussi.
Et écrire à la main.
Parce que j'ai mauvaise écriture, on n'arrive pas à lire ce que j'écris. Donc oui, je crois que il fallait faire quelque chose qui réclame toute mon attention. Et pour essayer de sortir de cette vie où j'étais, et donc de cette fatigue de la vie que je vivais, et j'ai choisi une situation où les trois événements sont ignorés et que je n'arrive pas à maîtriser les trois événements. Donc je ne sais pas dessiner, je ne sais pas écrire à la main. Et je ne sais pas de ce dont je parle.
Et je rajoute une chose pour que tout le monde comprenne. Là, on parle de l'autoportrait de Paris avec chat. Mm-hmm. Donc ce roman dessiné, le premier, après il y en aura quatre. Mm-hmm. Et il faut bien préciser qu'en plus, vous ne connaissez pas les chats et ne les aimez pas.
Oui.
Donc qu'est-ce qui s'est passé ?
Ben, je voulais faire quelque chose d'autre.
C'est marrant.
C'est une phrase d'ailleurs de Romain Gary dans sa dernière lettre d'adieu. Il disait, je voulais faire toute autre chose sous un tout autre nom. La seule chose que j'ai faite, j'ai gardé mon nom. Mm. Donc, j'ai pas fait.
Et aussi de l'Académie française, ce qui est intéressant, parce qu'en général, quand un écrivain entre à l'Académie, il va avoir l'ambition de faire le grand roman de l'académicien, et vous vous mettez à faire des dessins qui sont franchement, naïfs, un peu simples.
Et pas sur la route avec Bachot.
Non, je sais, ça c'était
un peu plus. Mais.
Il s'agissait quoi de toucher une nouvelle part de vous-même, d'être créatif, de risquer quelque chose?
Ben, je suis à l'Académie française, je ne suis pas au service de l'Académie française. Si j'y suis, j'ai pas besoin de prouver. Et en bombant le torse, et je fais ce que je veux. Au contraire, c'est pour ça que je suis à l'Académie française, c'est pour faire ce que je veux. C'est pour retourner à l'enfance, à ce temps libre, et où je n'avais aucune ambition particulière, où je ne voulais faire que ce que je voulais.
On va justement écouter Alain Mabankou parler de votre rapport à cette enfance.
Ce qui se retrouve dans ce livre, c'est peut-être ce que nous recherchons nous-mêmes. Cette sorte de parfum d'enfance que nous avons perdu. Cette sorte d'élégance même, peut-être, de la vie qui se retrouve à l'intérieur. La pointe de l'écriture, le dessin peut-être raturé, l'amour peut-être perdu dans ce sens. Mais aussi, qu'est-ce qu'un poème ? Il ne se rend pas compte à l'intérieur que c'est son enfance qui est en train d'écrire le grand poème de Dany Laferrière. Dans la splendeur de la nuit restera pour Dany Laferrière un des livres fondamentaux dans son œuvre.
Donc là, c'était Alain Bamako qui parle d'un autre de vos romans dessinés et qui dit que c'est peut-être votre livre le plus vrai.
Enfin, je ne les divise pas, les livres. C'est l'acte d'écrire qui compte pour moi. Écrire, c'est dessiner aussi maintenant. Et pour moi, c'est le même mouvement, c'est le même sentiment de calme que j'ai quand je suis en train d'écrire. Donc, moi, j'ai toujours fait ça.
Mais qu'est-ce que vous avez ressenti en vous remettant à écrire à la main après des décennies à écrire au clavier?
Ah, et mais si j'avais tellement un grand désir d'arriver à la machine à écrire. J'avais commencé par la main au tout début de ma vie d'écrivain. Et j'avais laissé la main parce que j'ai trouvé que la main gardait trop de souvenirs et de l'école, de l'influence. Et puis là, je suis passé à la machine, je voulais être un écrivain américain, et là, je suis arrivé à la main à nouveau, mais cette fois-ci, c'est une main plus, j'allais dire, dégarnie, c'est une main plus sobre.
Ça me fait un peu penser à ce que disait Cocteau, hein, l'écriture n'est que du dessin organisé. C'était Adèle, et plus précisément, Cry Your Heart Out. Nous sommes toujours avec Dany Laferrière de l'Académie française. Dany Laferrière qui a sorti il n'y a pas longtemps L'Enfant qui regarde, aux éditions Grasset.
Sous le soleil de Platon.
Vous avez une pièce d'identité?
Non, mais c'est des amis. Hein.
Justement.
Je t'expliquerai. Voilà,
te casse pas, on a compris.
Charles Pépin, sur France Inter.
Alors, Dany Laferrière, nous avons parlé de votre dernier livre, L'Enfant qui regarde, qui est à la fois un roman bonsaï et une sorte de dommage rendu à ce professeur énigmatique, cette figure du sphinx, figure dont je précise quand même qu'elle sera en partie résolue à la fin de ce petit texte bombesque. Nous avons parlé aussi de votre passage au dessin, assez fascinant. Il y avait cette idée de Cocteau, hein, l'écriture n'est que du dessin organisé. C'est peut-être ce qu'on sent dans votre le plus récent roman dessiné, Sur la route avec Bachot, que je recommande aux éditions Grasset, qui est un étrange objet. Là, on est à la radio, mais il y a des dessins, c'est écrit de votre main. Alors, vous riez parce qu'il y a des post-it partout, ça c'est moi qui les ai rajoutés. Mais je voudrais qu'on parle maintenant d'autre chose, Daniel Laferrière. Parlez-nous un peu de Legba, ce dieu vaudou qui me fait un peu penser, je crois, enfin pour moi en tout cas, au Hermès des Grecs, un dieu messager, et dont je crois savoir que son sigle VV est gravé sur votre épée d'académicien.
Ah oui, tout à fait, tout à fait. Mais dans la vie, il y a des choses comme ça, il y a des gens, comme des dieux, qui rentrent dans votre vie sans avertissement. Il y a d'innombrables dieux dans le panthéon vaudou haïtien, des dieux, des demi-dieux, si on peut appeler ainsi. Et il y a... Et brusquement, je crois, cette phrase qui disait « Si tu ne veux pas le vaudou vaudra de toi, que tu le veuilles ou non ». Et je ne sais pas, moi qui suis complètement...
Pourquoi ce dieu-là ?
Hanté de tous les dieux, et brusquement, est entré dans ma tête tout jeune l'idée que Legba est le dieu qui m'accompagne. Alors pourquoi Legba ? Parce que c'est un dieu qui se tient au carrefour, comme on dit, sur la frontière qui sépare le monde visible du monde invisible. C'est le dieu qu'on invoque quand une cérémonie commence. Pour ouvrir une cérémonie, il faut quand même que Legba ouvre la barrière. D'ailleurs, on lui demande, Legba, ouvre-moi la barrière pour entrer dans le monde des dieux. Donc, et ce Legba vous permet de passer du monde visible au monde invisible et de revenir au monde visible.
Ça,
il y a aucune religion qui vous propose ça. La religion catholique vous promet de passer du monde visible au monde invisible, mais ne vous a rien dit par rapport au retour.
C'est vrai. Et puis, dans la mythologie grecque, on n'y arrive pas justement à revenir du monde des enfers. Oui.
On n'arrive pas. Et là, il y a un dieu qui permet un va-et-vient, une vraie barrière. Vous entrez dans la barrière, vous ressortez par la barrière. Donc, j'ai trouvé que cette chose extrêmement simple, extrêmement directe, qui va même d'ailleurs avec l'idée de la mort pour les Haïtiens. L'expression mourir, ça veut dire partir au pays, pour le pays sans chapeau. C'est-à-dire, les Haïtiens avaient remarqué que personne n'était enterré avec son chapeau. Donc, l'au-delà, c'est un pays où l'on ne porte pas de chapeau. Donc, vous voyez, ce vaudou qui a tellement une presse, disons, difficile à l'étranger, et pourtant propose des définitions d'une simplicité extraordinaire, que la mort sera tout simplement, serait un voyage pour un pays où l'on ne porte pas de chapeau. Ce qui veut dire que si vous n'en portiez pas avant, vous ne sauriez même pas que vous êtes mort.
Mais alors, est-ce que ce dieu Legba, puisqu'il permet d'accéder à la visibilité une fois qu'on a été invisible, c'est pas un peu le dieu des écrivains ?
C'est tout à fait cela. Je crois que c'est cela. Écrire, c'est des choses que nous avons en nous, des sensations, des émotions, des passions, et que nous faisons apparaître et sur la page, et qui nous étonnent parce que nous les avons de façon confuse à l'intérieur de nous, et brusquement elles apparaissent nettes, claires et lumineuses. Assez pour essayer, pour toucher des gens dans d'autres langues, dans d'autres sphères, dans d'autres émotions, dans d'autres situations. C'est incroyable que je puisse écrire une phrase, le ciel est bleu, et qu'il soit en train d'être lu partout, et qu'on accepte l'idée que le ciel soit bleu, alors qu'on lit ça la nuit. Enfin, c'est extraordinaire, cette possibilité de communication que donne l'écriture.
Il y a une autre idée aussi, c'est que, enfin, moi j'avais une autre idée en tête, c'est que quand vous sortez le livre, il accède à la visibilité et vous avez été longtemps dans le retrait à l'écrire dans la solitude et dans une forme d'invisibilité. Il y a aussi ça, non ?
Ah, mais bien sûr, bien sûr. Mais il accède à la visibilité pour vous-même d'abord. Parce que nous n'avons pas un livre à l'intérieur de nous, comme on dit, et que nous le faisons sortir. Mais c'est quelque chose d'autre qui sort. Nous avons des émotions que nous croyons avoir, que nous voulons faire sortir à l'extérieur, mais c'est quelque chose d'autre. On est très intéressé par ce qu'on fait. Moi, je lis beaucoup les livres que j'écris, après les avoir publiés d'ailleurs.
Un peu comme si c'était ceux d'un autre ?
Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et je crois que c'est ceux d'un autre d'ailleurs. Et ce livre qui vient de sortir et qui accède à la visibilité me permet de bouger, contrôle tous mes mouvements. Si mon livre est traduit en Italie, on m'invite à aller en Italie. Et si mon livre est traduit en japonais, on m'invite à aller au Japon.
Et alors, vous devenez vraiment un écrivain japonais.
Et là, je deviens un écrivain japonais quand un japonais me lit en japonais. Parce que c'est quand même étonnant. Je regarde quelqu'un en train de me lire dans une langue que je ne comprends pas. Et donc, il est beaucoup plus que moi à ce moment-là, que moi-même.
On en revient vraiment à la question de l'identité, finalement, parce qu'il y a deux idées d'identité. Il y a l'idée qu'on aurait au fond de soi des choses et qu'on les ferait sortir. On extérioriserait l'intériorité. Et c'est une idée un peu cliché, c'est l'idée du sens commun. Et en fait, ce que vous dites, c'est que c'est le contraire. C'est que c'est autre chose. À un moment, quand je crée, quand je produis, quand je suis à l'œuvre, mais même si on n'est pas écrivain, quand on fait des choses dans la vie, on ne fait pas que faire sortir à l'extérieur ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Dans le mouvement de cette extériorisation, en fait, on invente. En fait, on s'invente.
On invente, on crée des mondes nouveaux, on essaie de, surtout quand on écrit aussi, on essaie d'organiser ça de manière, et on pense à d'autres personnes qui ne nous connaissent pas, et quoi qu'on dise, des gens disent, on ne pense pas au lecteur.
Peut-être un peu aussi. Hein.
Beaucoup même.
C'est sympa pour lui.
On ne pense pas à tel lecteur en particulier. C'est dangereux. C'est dangereux d'écrire pour quelqu'un en particulier. D'ailleurs, ça, c'est vraiment la chose à ne jamais recommander. Et parce que d'ailleurs, si vous écrivez un manuscrit, vous le donnez à un ami, il le lit, il l'aime, vous le reprenez, vous le corrigez, il se fâche. Parce que lire un manuscrit, c'est en devenir l'auteur. Donc la personne a lu votre manuscrit, il croit qu'il en est l'auteur. Donc il faut plus y toucher puisqu'il vous a dit que c'est bon. Et donc il faut faire attention de ne pas écrire pour telle personne. Mais on écrit toujours avec l'idée du lecteur.
Denis Laferrière, vous êtes entré en littérature il y a 35 ou 40 ans avec un livre bombesque, explosif, « Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer », qui a été réédité récemment aux éditions Zulma, dans une nouvelle collection très belle. Alors c'était vraiment trash, c'était ambitieux, c'était un peu du Henry Miller, on vous a comparé à Bukowski, un mélange de Henry Miller et de James Baldwin. Et j'invite tous les auditeurs cet été sur la plage à relire « Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer », en même temps que l'enfant qui regarde aux éditions Grasset.
Le premier et le dernier.
Exactement. Pour vous, que vous voyez un peu le chemin parcouru, vous allez voir que c'est ça aussi une vie d'auteur. C'est ça aussi hein, une multiplicité. C'est ça aussi changer de visage. Ça me rappelle quelque chose que Sartre avait dit, je ne suis que la succession de mes infidélités. Ma seule fidélité, bon Sartre un peu provocateur, hein, ma seule fidélité, c'est la succession illimitée de mes infidélités. Mais justement, puisqu'on parle comme ça de réinvention, de perspectivisme, je voudrais qu'on parle un peu de votre écrivain préféré, Borges, et notamment de votre rencontre avec ce livre fiction dans une librairie.
Oui, c'était à Montréal, sur la rue Saint-Denis, la librairie Québec-Amérique. J'étais entré, j'étais jeune ouvrier, je venais d'arriver à Montréal, et je regardais un peu les livres, et j'ai vu un livre avec un titre, c'est pas mon genre. Cette histoire de fiction, ça s'appelait. J'ai trouvé ça un peu prétentieux d'appeler son livre fiction. C'est une telle sobriété de peut-être que de la prétention. D'ailleurs, aurait dit Borges lui-même. Ouais. Et je l'ai ouvert, j'ai commencé, c'est très difficile et je ne sais pas quand c'est arrivé, il y a eu un déclic, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait là, qui n'était pas ordinaire. Que je n'avais jamais lu cette chose, que j'avais jamais rencontré un tel esprit. Et là, j'ai continué et j'allais de perplexité en perplexité. J'étais face à un être, encore une fois, énigmatique. J'aime les gens énigmatiques, mais vraiment, et qui se voulait, lui, d'une simplicité et totale. Et il n'était que lui-même, et c'était ça l'énigme.
Ce
qu'il voulait.
Ce qui est beau dans cette rencontre, c'est que vous n'avez pas compris grand-chose, mais vous aviez su que c'était pour vous.
Oui, c'est pas mon genre. Et rien n'était pour moi, mais en le lisant, j'ai su que c'est une rencontre qui allait durer, que je vais passer tout mon temps. Et cela fait à peu près, je sais pas, plus de 40 ans.
Et c'est dingue. Hein. C'est ça, une belle rencontre.
On s'est jamais quitté.
C'est ça, une belle rencontre. On sent dans la grâce du présent que s'ouvre un très long avenir.
Oui, absolument. Je voyais la route s'ouvrir et j'avais les buts. Ce qui est extraordinaire pour moi, c'est que je n'ai jamais été influencé par Borges. J'ai jamais cherché à écrire comme lui. Et j'ai toujours été très distant. C'est vraiment un compagnon. On cause, on est différent et voilà.
C'est bien la preuve que on peut admirer sans vouloir imiter.
Oui, je crois. Je crois que dans l'imitation, il y a quelque chose qui réduit la part de vraie fascination, de vraie admiration. C'est une indiscrétion, l'imitation.
Mais d'ailleurs, c'est logique, parce que si on admire, au fond, on admire la singularité.
Oui.
Et donc la singularité est inimitable.
Mais c'est ce que je dis souvent. Si je vais quelque part et qu'on m'offre à manger et que je trouve ça très bon, je ne demande pas la recette. Je reviens.
Alors, dans ce livre de Borges, qui a été votre choc esthétique, presque le premier, fiction, il y a une nouvelle qui, moi, me scotche à chaque fois que je la relis, c'est Funès ou la mémoire. C'est l'histoire de quelqu'un qui va mourir parce qu'il se souvient de tout.
Oui. C'est extraordinaire, ce texte, parce que c'est une réflexion intellectuelle, métaphysique et tout, et sur la mémoire, sur aussi le cauchemar, et parce que le cauchemar, c'est les mêmes choses qui reviennent. Et pourtant, c'est écrit de manière extrêmement concrète, hein, et ça raconte l'histoire de ce petit garçon que Borges, enfin, le narrateur, jeune narrateur, à peu près de son âge, a rencontré, qui lui-même se croyait très intelligent, Borges, mais il a rencontré un peu son grand rival, et Irénée.
Mais alors, si trop de mémoire tue, ça veut dire qu'il faut un peu oublier. Et si en même temps, vous reconnaissez que vous ressassez, que vous parlez beaucoup de l'enfance, votre grand-mère, etc., finalement, où est le juste milieu entre trop de mémoire et trop peu de mémoire ?
Eh bien, c'est l'écriture, c'est la vie, c'est le petit... On n'est jamais... C'est pas un endroit qui existe. Et c'est le déplacement d'une branche sur une autre, comme disait un poète japonais Shiki, l'oiseau qui vole d'une branche sur une autre. C'est une façon pour lui d'être, parce qu'il peut pas rester en place. Donc, et ce mouvement apparent n'est que son immobilité à lui-même. Et il n'y a pas de juste milieu. Il y a qu'un sauter.
Un balancement, oui.
Sauter d'une branche à une autre sans cesse.
C'est ça, finalement, toute votre réflexion sur le voyage, hein, c'est quand même d'arriver à une forme d'immobilité. Même si je suis toujours en train de bouger, de me déplacer, de me voyager, au fond, il y a quelque chose d'immobile dans cette observation, dans cette présence aussi.
Tous mes livres sont basés là-dessus. Le petit garçon dans l'odeur du café qui bouge sans cesse, tandis que sa grand-mère reste assise sur la galerie à boire du café. Ouais. Booba dans l'odeur dans comment faire l'amour avec un ex fatigué qui ne quitte jamais son lit, tandis que son copain et circule dans la ville.
C'est vrai que parfois Booba il dort 3 jours de suite. Alors, précise voilà. Que c'est pas le rappeur, hein. C'est votre acolyte dans votre premier livre sorti il y a 35 ans, comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer. Et c'est vrai qu'il y a toujours ces figures comme ça d'immobilité et en même temps ce rêve d'un voyage perpétuel.
Bon, c'est entre le sédentaire et le nomade que ça se joue. Le voyageur, s'il ne rencontre pas le sédentaire pour lui raconter son voyage, il n'y a pas de voyage. Et à un moment donné, on ne sait pas, c'est le lecteur et l'écrivain. C'est toujours comme ça. Il n'y a pas de livre tant que qu'un lecteur ne l'a pas ouvert.
Et puis voilà, vous voyagez dans votre bain, vous lisez, immobile, et pourtant vous partez ailleurs. Merci beaucoup, Dany Laferrière, de nous avoir accompagnés ce matin sous le soleil de Platon. C'était vraiment un plaisir de vous entendre parler, notamment de ce dieu étrange, le dieu Legba. Pour vous remercier ce matin, je vais essayer et je ferai ça tout l'été, à chaque fois que j'aurai un invité, de dégager la philosophie de la vie pour nos auditeurs, qui a été la vôtre ce matin. Alors j'aurais envie de dire une philosophie profonde et légère à la fois, mais on voit clairement que vous êtes de ceux qui préféraient dire légèrement des choses profondes que profondément des choses légères. Une philosophie du voyage, bien sûr, mais qui confine à cette belle immobilité. Et puis, en fait, philosophie, le mot me gêne un peu. J'aurais plutôt envie de dire sagesse, hein, la sagesse de Bachot. Et je rappelle ce haïku de Bachot, parce qu'on comprend bien dans ce haïku toute la sagesse de l'allègement, du rétrécissement, de la trace que vous recherchez. Herbe folle de l'été, où frémit encore le rêve des guerriers. Merci beaucoup, Dany Laferrière, de nous avoir invités à voyager avec vous. Cette émission a été réalisée par Alicia Vullo, avec à la technique Sofiane Active, programmation musicale Valentine Chedbois. Elle a été préparée par Vera Lou Deride et Fabrice Rivaud. Très bien préparé, merci beaucoup. Quant à moi, je vous retrouve demain matin et tous les jours de l'été à 9h sous le soleil de Platon, sous le soleil exactement.